Bonjour à tous. Il y a environ 2 mois, le frère Timothy Bixby m'a envoyé la citation suivante d'un auteur chrétien. Donc cet auteur dit ceci: il est aussi important de mettre sa confiance en Dieu que de lui obéir. Quand nous désobéissons à Dieu, nous nous opposons à son autorité et nous méprisons sa sainteté. Mais quand nous ne lui faisons pas confiance, nous doutons de sa souveraineté et nous mettons en question sa bonté. Dans les deux cas, nous dénigrons sa majesté et son caractère. Dieu voit notre manque de confiance aussi sérieusement qu'il voit notre désobéissance. Dieu voit notre manque de confiance aussi sérieusement qu'il voit notre désobéissance. Quelques jours plus tard, dans mon plan de lecture, je lisais ceci en Nombre, chapitre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse: jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de toi? Et je veux prêcher ce matin sur ce thème de l'incrédulité du peuple de Dieu. L'incrédulité du peuple de Dieu. Les chrétiens sincères et authentiques sont souvent découragés et brisés par le poids de leurs péchés. Ils s'associent dans leurs pensées au roi David et à la confession de son péché à Dieu, dans le psaume 51 par exemple, dans l'affaire de Bathsheba et de Uri le Héthien, ou aussi comme David dans le psaume 38, ils peuvent dire: mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Ils pensent à leurs nombreux péchés liés à la chair, tels qu'ils sont cités par Paul dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, par exemple les querelles, les animosités, la jalousie, ou dans d'autres passages, la concupiscence des yeux, la colère, la dureté de cœur, le manque d'amour pour les frères et sœurs, le manque d'amour pour les perdus. Ils pensent à leur égoïsme, aux nombreux péchés de leur vie passée, avant qu'ils soient devenus chrétiens, et aux nombreux péchés qu'ils ont encore commis depuis qu'ils sont devenus chrétiens. Tous les jours, ils plaident auprès de Dieu dans la prière qu'il les lave de leurs péchés par le sang de Jésus et qu'il leur donne la victoire sur ses péchés par le Saint-Esprit dans la journée qui vient. Et évidemment, il est très bien qu'il en soit ainsi. Mais est-ce que nous ressentons avec autant de contrition et avec autant de repentance le poids de notre péché d'incrédulité? Est-ce que seulement nous sommes conscients de notre péché d'incrédulité? Et nous allons voir que la parole a beaucoup à nous dire à ce sujet. Et dans notre étude, je vais utiliser comme modèle d'analyse une définition de la foi qui était donnée au temps de la Réforme, donc au XVIe siècle. Et donc les réformateurs, ils voyaient en fait dans la foi 3 composantes. De quoi s'est fait la foi? C'est fait de 3 composantes. Tout d'abord, la connaissance. Ensuite, l'assentiment et enfin la confiance. Connaissance, assentiment et confiance. Je vais prendre un exemple qui d'ailleurs est proche de notre catéchisme de mémorisation aujourd'hui. Un objet de la foi, par exemple, c'est que Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. C'est quelque chose que nous devons croire. Et la première étape de la foi, c'est de connaître cette affirmation. Je sais que les chrétiens enseignent que Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. Connaître cela ne fait pas de moi un chrétien. N'importe quel étudiant en théologie, un peu sérieux, sait cela sans pour autant être un chrétien. Mais si je n'ai pas cette connaissance, si je ne sais pas que Christ est mort pour sauver son peuple de ses péchés, je ne peux pas être un chrétien. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait des catéchismes comme ceux que nous mémorisons dans cette église, ou qu'il y ait aussi des, ce qu'on appelle des confessions de foi, comme par exemple ce qu'on appelle le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, qui ont été rédigés au premier temps de l'église, qu'on appelle des credos, et qui résument les points fondamentaux de ce que nous devons connaître et de ce à quoi nous croyons. Ça, c'est la première étape de la foi. Mais la deuxième étape de la foi, c'est accepter que cette connaissance est la vérité. J'accepte que cette connaissance est la vérité. C'est le mot assentiment. Par exemple, je reconnais que l'affirmation « Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés » est vraie. Je reconnais que c'est une vérité. Certains qui savent que c'est ce qu'enseignent les chrétiens disent pourtant que c'est faux. Par exemple, les musulmans savent très bien, beaucoup d'entre eux en tout cas, ces choses. Et pourtant, ils disent que Jésus n'est pas mort en fait. Mais moi, je crois que c'est la vérité. C'est l'assentiment. Mais ce n'est pas encore suffisant pour faire de moi un chrétien. Il me manque la troisième étape. Et la troisième étape, c'est la confiance. Je dois mettre ma confiance dans cette vérité pour moi-même. Je crois que Jésus est mort pour me sauver de mes péchés. Et je mets ma confiance en lui pour mon salut. Donc ce qu'on va faire ce matin, c'est regarder dans différents passages de la parole, des manifestations de la défaillance de la foi, de cette incrédulité du peuple de Dieu, suivant ces trois étapes. Parce que finalement, si on veut parler de l'incrédulité du peuple de Dieu, il faut voir en quoi elle est défaillante. Et elle peut être défaillante sur la connaissance, elle peut être défaillante sur l'assentiment, elle peut être défaillante sur la confiance. Et on va évidemment regarder ça dans la parole de Dieu, qui est la source de toute chose pour nous. Et on va regarder tout d'abord quelques exemples de cette défaillance de la foi au premier niveau, c'est-à-dire la connaissance. Je vais prendre l'exemple du centurion romain, Corneille, que nous trouvons en acte 10. Je lis pour vous en acte 10, au chapitre 1. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous le souhaitez, on regardera quelques versets. Donc, acte 10, chapitre 1, nous lisons ceci. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il ne fait pas de doute que cet homme avait la foi dans le Dieu d'Israël, avec le degré de connaissance qui était le sien et le degré de lumière qui lui avait été donné. Nous voyons que le texte nous dit qu'il était pieux, craignant Dieu, faisant beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Chacun d'entre nous aimerait bien que ce soit le témoignage qu'on puisse rendre de nous. Son problème n'était pas son degré d'assentiment par rapport à la révélation qu'il avait reçue, ni son degré de confiance en Dieu pour ce qu'il connaissait de lui. Il adhérait complètement à ce qu'il connaissait et il mettait toute sa confiance en Dieu tel qu'il le connaissait. Son problème, c'était son degré de connaissance. Il lui manquait une connaissance. Sa connaissance était limitée et il avait besoin d'être enseigné. Et c'est le thème de ce chapitre. C'est ce que va faire Pierre. Un ange ordonne à Corneille d'envoyer chercher Pierre. Pierre, de son côté, reçoit une révélation du Seigneur qui lui apprend à ne regarder aucun homme comme souillé et impur, contrairement à ce que croyaient les Juifs en ce qui concerne les païens. Or, Corneille était un païen, donc il fallait que Pierre soit libéré par rapport à cette sorte de répulsion qu'il avait pour pouvoir se rendre chez Corneille. Et donc, c'est ce qu'il fait. Il va chez Corneille, il lui proclame toute la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je ne vais pas lire la totalité, mais le point saillant dans cette profession que fait Pierre, au verset 43, tous les prophètes rendent donc de lui, donc de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Sur ces paroles, le Saint-Esprit descend sur Corneille et sur ses parents et amis réunis avec lui. Ainsi, Corneille reçoit la connaissance, il reçoit le savoir qui lui manquait pour être un chrétien. Et cette connaissance, il la reçoit avec joie. Elle a son plein assentiment, elle a sa pleine confiance. et de ce fait, il reçoit le Saint-Esprit. Donc Corneille, il nous fait penser un petit peu aux apôtres lorsque Jésus les a choisis, ou à Marie, la sœur de Marthe, qui s'asseyait aux pieds de Jésus pour l'écouter. Il fait penser à Lydie, la marchande de pourpre de Thyatire, en acte 16. Ces personnes, elles correspondent à ce que Jésus décrit dans la parabole du semeur, en citant la version qui est dans Luc chapitre 8, au verset 15. Ces personnes, elles sont prêtes à recevoir la parole avec un cœur honnête et bon. C'est une bonne terre. Elles sont prêtes à recevoir la parole avec un cœur honnête et bon. Ces gens-là, ils ont soif de la parole, comme Corneille. Leur cœur est manifestement préparé pour Dieu et préparé par Dieu. Et maintenant, il ne leur manque plus que le messager pour venir les enseigner, pour leur annoncer la parole et leur donner cette connaissance. Et puis, ce Seigneur a amené dans nos églises ou dans nos vies de telles personnes qui ont soif de la parole, mais qui ne la connaissent pas. On a d'autres exemples comme ça de gens, encore une fois dans le livre des Actes, qui sont un petit peu défaillants au niveau de la connaissance. Par exemple, en acte 18, on a le personnage d'Apollos. Apollos, on lit en verset 25 en acte 18, il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc Apollos, il était plus avancé dans la connaissance que Corneille, car il était instruit dans la voie du Seigneur, mais il lui manquait quelque chose. Et le texte nous dit au verset 26, « Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » Juste après, dans le chapitre suivant, et on voit donc qu'on a un thème qui se révèle dans ces chapitres, Paul rencontre à Éphèse des personnes que le texte appelle des disciples, au verset 1. Et ces personnes, nous dit le texte, ont cru, au verset 2. Mais ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et donc Paul les enseigne, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus, Paul leur impose les mains et le Saint-Esprit vient sur eux. Donc l'application qu'on peut tirer de ces passages et de ces situations, c'est, et en particulier pour nous, la nécessité d'enseigner avec exactitude et de manière exhaustive la parole de Dieu. Est-ce que tous ces gens, Corneille, Marie, Lydie, Apollos, les apôtres, les disciples d'Éphèse, est-ce qu'ils étaient sauvés avant d'avoir reçu cet enseignement? Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'ils étaient la bonne terre qui est prête à recevoir la parole avec un cœur honnête et bon. Mais si on veut être sûr qu'ils soient sauvés, alors il faut leur annoncer l'Évangile. La parole, dans d'autres passages aussi, parle de cette connaissance et de ce déficit en matière de connaissance avec une certaine sévérité, en parlant des chrétiens. Hébreux 5, par exemple, parle de différents degrés dans la connaissance et il utilise l'image du lait pour les enfants et d'une nourriture solide pour les hommes faits. Il réprimande les Hébreux parce qu'ils en sont encore au lait. Le Seigneur, il ne nous a pas seulement envoyé annoncer la bonne nouvelle, il nous a envoyé faire des disciples. Et pour cela, il faut annoncer tout le conseil de Dieu. Et ainsi, Jésus a dit en Matthieu 28, versets 19 et 20, un passage que nous connaissons tous très bien, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tout ce que je vous ai prescrit. Pas juste quelques versets par-ci, par-là. Et Paul dit aux Éphésiens, en acte 20, 27, il leur dit qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être assidus dans la lecture quotidienne de la parole, tous les jours de notre vie. Nous devons saisir toutes les opportunités de recevoir l'enseignement en participant au culte le dimanche, en participant aux études bibliques, qui sont malheureusement trop souvent désertées. Et je ne saurais trop insister sur la nécessité de mémoriser le catéchisme, comme vous le faites dans cette église. les grandes hérésies comme sur la Trinité, sur la personne de Christ ou sur le salut, elles proviennent d'un manque de connaissance de la parole et d'un manque de précision dans son interprétation. Vous ne voulez pas en rester au lait. La parole de Dieu vous condamne pour ça si vous en restez au lait. Vous voulez de la nourriture solide. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière je ne sais quelle déficience. Ne pas avoir la connaissance, quand vous n'avez pas reçu la révélation, ce n'est pas un péché. On ne peut pas reprocher à Corneille de ne pas avoir la connaissance s'il n'avait pas reçu la révélation. Mais ne pas rechercher la révélation quand vous savez qu'elle existe, ou pire, refuser de l'entendre, ça c'est un péché. Une fois, une personne m'a dit « Tout ce que je veux savoir, c'est que Jésus est mort pour mes péchés, le reste, ça ne m'intéresse pas, c'est pourquoi je ne lis pas la Bible. » C'est une grave attitude de rébellion, car Jésus a dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ces personnes dont on a parlé, ce que les caractérisait, c'était leur bonne volonté pour recevoir l'enseignement. Apollos, qui était un homme éloquent et versé dans les Écritures, il a réagi avec humilité, il a accepté d'être enseigné par Aquilas et Priscille, il ne les a pas rejetés. Il en est de même de tous les autres. Corneille avait invité tous ses parents et amis, tellement il était content de recevoir la parole et l'enseignement. Ces gens, ils avaient soif de la parole, ils avaient un esprit bien disposés, ils étaient prêts, complètement prêts à donner leur assentiment, prêts à reconnaître la vérité de l'enseignement, pourvu qu'on le leur donne. Je dirais que ces gens étaient, je dirais le mot, enseignables. Ils étaient enseignables, faciles à enseigner. Est-ce que nous sommes faciles à enseigner ou est-ce que nous sommes des rebelles? Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes, de tous les chrétiens même, d'être enseignables. Et c'est la deuxième défaillance de la foi que nous voulons regarder. La première défaillance, c'est le manque de connaissances. Et elle peut être facilement remédiée en se soumettant à l'enseignement. La deuxième défaillance, c'est beaucoup plus grave, c'est le refus de reconnaître la vérité de la parole. Généralement, c'est à ce niveau que les incroyants se manifestent et montrent leur incrédulité. Ils peuvent avoir une très bonne connaissance de l'enseignement de la Bible. Moi, j'en ai rencontré des gens comme ça. Ils peuvent être même agrégés en théologie. Ils peuvent avoir été dans les universités et avoir fait de la théologie leur domaine d'études. Mais pour eux, ce n'est qu'un sujet d'étude, auquel ils ne croient absolument pas, dans le sens où ils ne croient pas que c'est la vérité. Ils n'y donnent pas leur assentiment. Et cela ne nous surprend pas de la part de non-chrétiens. On n'attend pas autre chose de leur part. Ils ne vont pas reconnaître que c'est la vérité, ils ne sont pas chrétiens. Mais c'est plus grave quand ce sont des chrétiens eux-mêmes qui mettent en doute la vérité de la parole. Et peut-être que vous dites, mais ça n'existe pas. Et bien sûr que si, que ça existe. Et ça existe même très clairement dans la Bible. Et on va regarder deux exemples de croyants, de vrais croyants, qui sont tombés dans ce piège. Le premier dans l'Ancien Testament et le deuxième dans le Nouveau. Et ouvrez vos Bibles au tout début de l'Ivre de Genèse, au chapitre 3. Évidemment, le premier exemple que je vais vous donner, si je vous guide vers ce passage, c'est celui d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont reçu la connaissance. Et ils l'ont acceptée. Ils savent qu'ils peuvent manger de tous les fruits de l'arbre, de tous les fruits des arbres du jardin, sauf de celui de la connaissance du bien et du mal, au risque de mourir. Regardons Genèse, donc chapitre 3, et nous lisons les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc premier passage dans l'Ancien Testament. Regardons ensuite un deuxième passage dans le Nouveau Testament. Il se trouve en Marc 8 et aussi en Matthieu 16. Nous allons lire la version qui se trouve en Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans ces deux passages, on a des croyants, des membres du peuple de Dieu. Dans les deux cas, ils ont reçu une révélation claire de la part de Dieu. Adam et Ève ont reçu un commandement, et Pierre, il a reçu une annonce, une prophétie, une annonce de la crucifixion à venir. Dans les deux cas, remarquez que c'est Satan qui nie cette révélation. Et Adam et Ève, d'une part, et Pierre, d'autre part, croient Satan plutôt que Dieu. Dans les deux cas, ils refusent de donner leur assentiment à la révélation de Dieu. Ils ne reconnaissent pas que c'est la vérité. Non, nous ne mourrons pas si nous mangeons du fruit, disent Adam et Ève. Et non, Jésus, tu ne seras pas mis à mort et tu ne ressusciteras pas, dit Pierre. Et remarquez la gravité de ce péché. Par ce péché, Adam et Ève ont précipité l'humanité tout entière dans la misère dans laquelle elle se trouve depuis 6000 ans. Et quant à Pierre, il était tout simplement en train de souhaiter que ne se produise pas la seule chose qui pouvait corriger le péché d'Adam et Ève. Heureusement, le péché de Pierre n'a pas eu, pour nous, les conséquences de celui d'Adam et Ève. Toutefois, à son niveau à lui, Pierre en a payé les conséquences. Car si Pierre avait accepté, dès ce moment, la révélation de Jésus sur sa mort et sa résurrection, il aurait pu se préparer psychologiquement à ce qui s'est passé à Pâques, et peut-être n'aurait-il pas renié le Seigneur comme il l'a fait. Ces deux épisodes nous montrent que, bien que chrétiens, nous ne sommes certainement pas à l'abri de rejeter la vérité de la parole de Dieu. Soit parce que les conséquences ne nous plaisent pas, comme pour Adam et Ève, soit parce qu'elles ne correspondent pas, cette parole, à notre façon de voir les choses. Pierre, il s'était fait son idée sur le rôle de Jésus. Sans doute que, comme les autres juifs de l'époque, il voyait en lui un grand leader politique puissant qui allait libérer les juifs de l'oppression des Romains. Et la crucifixion de Jésus ne cadrait pas avec ses projets. Et remarquez que dans les deux cas, cette défaillance de la foi des chrétiens vient de Satan. Satan et ses démons sont toujours là pour vous tenter, pour contredire et rejeter la vérité de la parole dans vos oreilles. Et Satan utilise sa phrase préférée. Et c'est quoi cette phrase ? C'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mets en doute la parole de Dieu. Il nous susurre des mensonges à l'oreille avec cette question « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et il l'applique à des thèmes sur lesquels il sait que nous avons des doutes ou des tentations. Et je vais en citer quelques-uns qui sont des domaines de tentation dans l'Église actuelle. Des domaines sur lesquels les gens doutent et qui sont probablement spécifiques à notre époque. Par exemple, Dieu a-t-il vraiment dit qu'une femme doit être soumise à son mari ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'une femme ne doit pas enseigner ni ne prendre autorité sur l'homme ? Dieu a-t-il vraiment dit que l'homosexualité est un péché ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'un mariage est nécessairement entre un homme et une femme ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il est le divorce ? Dieu a-t-il vraiment dit que l'avortement est un meurtre? Dieu a-t-il vraiment dit que je dois me soumettre à mon patron? Dieu a-t-il vraiment dit que ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas manger non plus? Dieu a-t-il vraiment dit que l'enfer est éternel? Je vous le dis, j'ai cité volontairement ces choses qui sont l'objet d'attaques de Satan dans l'Église d'aujourd'hui. Mais dans tout le cas, le remède à ce genre de doute, c'est de passer du temps dans la parole. Si vous lisez systématiquement la parole tous les jours, de façon à couvrir la totalité de la Bible, et que vous le refaites régulièrement, vous aurez la réponse à toutes ces questions que je viens de poser. Il n'y aura même pas besoin d'aller voir votre pasteur. Et vous aurez la réponse à beaucoup d'autres questions, et vous verrez que Dieu l'a vraiment dit. Et on veut maintenant regarder la troisième défaillance de la foi. Donc on a vu une première défaillance, c'est un manque de connaissance. La deuxième défaillance, c'est le refus d'accepter la vérité de la connaissance qui nous est donnée. Et le troisième domaine, c'est le manque de confiance. Et là, probablement, c'est ce à quoi vous auriez peut-être pensé tout de suite quand on parle de manque de foi. On va regarder un tout petit peu ce passage Ancien Testament, pas la peine d'ouvrir vos Bibles, mais je vous rappelle ce que j'ai dit en Nombre 14, verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de toi ?» Donc ça se produit lors du refus du peuple. Refus par le peuple de prendre possession de Canaan, donc juste 2 ans après qu'ils aient quitté l'Égypte. Et au lieu d'écouter Josué et Caleb, Josué et Caleb les encourageaient à aller prendre la terre de Canaan, il leur disait au verset 9, « Seulement, ne sois rebelle contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviraient de pâture. Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Et donc, plutôt qu'écouter Josué et Caleb, ils écoutent les autres dix espions, et refusent de partir à la conquête de Canaan, et ils sont même prêts à lapider Caleb et Josué. Et si vous voulez bien, on va regarder le commentaire que fait l'Épître aux Hébreux sur ce passage au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 3, verset 17. Donc, commentaire de l'Épître aux Hébreux sur cette rébellion. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui l'avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Vous pouvez entendre la parole, vous pouvez avoir la connaissance, mais si vous ne mettez pas votre confiance dans cette parole et agissez en fonction de cette confiance, cette parole ne vous sert à rien et vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu, comme dit le texte. En d'autres termes, vous n'hériterez pas de la vie éternelle, parce que c'est ce dont ce texte parle quand il parle du repos. J'ai fait référence tout à l'heure à cette citation qui m'a été envoyé donc par le frère Timothée, et qui dit que le manque de confiance en Dieu revient à douter, premièrement à douter de sa souveraineté, et deuxièmement, revient à mettre en question sa bonté. Donc ne pas faire confiance à Dieu, c'est douter de sa souveraineté et mettre en question sa bonté. Et c'est exactement ce que font les Juifs dans l'épisode de Nombre, puisqu'on lit au verset 3, au chapitre 14, qu'ils doutent de la bonté de Dieu. Ils disent « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ?» Donc ils doutent de la bonté de Dieu. Et ils doutent également de sa souveraineté, en ce qu'ils ne le croient pas capable de leur garantir la victoire. Donc voilà pour l'Ancien Testament. C'est un passage parmi tant d'autres. Et on va regarder maintenant deux passages dans le Nouveau Testament sur l'incrédulité des apôtres eux-mêmes. Et il y a beaucoup de passages où Jésus reprend fortement les apôtres à cause de leur incrédulité. On va regarder l'Évangile de Marc, chapitre 8. Si vous voulez bien tourner dans vos Bibles, l'Évangile de Marc, chapitre 8. C'est donc un passage qui se produit après les deux grandes distributions des pains et des poissons qu'avait fait Jésus. Donc Marc, chapitre 8, verset 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? » 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Les disciples sont donc dans la barque. Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas de pain. Ils ont été témoins de miracles où Jésus a nourri une fois 5 000 hommes et femmes et enfants, et une autre fois 4 000 hommes et femmes et enfants. Ces miracles auraient dû leur faire comprendre la toute-puissance de Jésus-Christ et sa volonté de prendre soin de son peuple. Ces miracles étaient une illustration de ce fameux verset de Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 31, où Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Il n'avait vraiment aucune raison de se faire du souci pour la nourriture. Et pourtant, ils ne comprennent pas, au point que Jésus montre vraiment de l'étonnement. Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Et plus loin, il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Si on veut étonner Dieu, c'est par notre incrédulité, étant pourtant chrétien, que nous pouvons le faire. C'est comme s'il disait, mais que vous faut-il de plus ? Il y a un ton de reproche dans les paroles de Jésus, très clairement. Et ce n'est pas qu'ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils ont reçu la connaissance plus que tout autre. Ils étaient aux premières loges, ils ont vu les miracles, ils ont même eux-mêmes distribué les pains et les poissons. Et ils savaient qu'au départ, il n'y avait presque pas de pain et de poisson, et qu'ils en ont distribué des milliers. Mais ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas le manque de compréhension, par exemple, de l'eunuque éthiopien qui était, si vous vous rappelez, dans Actes chapitre 8, il était en train de lire Ésaïe 53 sur la route de Gaza et il ne comprend pas le texte qu'il lit. Et donc, Philippe vient et lui explique le texte. Non, ce n'est pas ça. Même si je dis vous ne comprenez pas, c'est un manque de compréhension qui est proche du manque de confiance. On a ici une sorte d'obscurcissement de l'intelligence. Nous sommes témoins des œuvres de Christ dans la parole, mais à cause de notre compréhension enténébrée, obscurcie, nous n'arrivons pas à nous les appliquer à nous-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti? Je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti. Et prenons garde, parce que le Seigneur nous dit, il utilise l'expression « cœur endurci ». Cet obscurcissement de l'intelligence, elle est similaire à l'endurcissement du cœur. Et rappelez-vous qu'il y a un personnage terrible dans l'Ancien Testament dont le cœur endurci, c'était Pharaon. Est-ce qu'il vous arrive de lire des passages et de ne pas les comprendre? Exactement comme les apôtres. Il y a des passages de la parole que nous avons lus et relus et ils ne pénètrent pas dans notre intelligence, dans notre cœur. Comme s'il y avait un blocage. Par exemple, je lis ceci. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. Nous lisons ce passage, glorieux, et pourtant, nous ployons sous le poids de notre culpabilité. Et notre conscience n'est pas purifiée des œuvres mortes. Alors que le Seigneur nous dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et le Seigneur Jésus pourrait nous dire, ne comprends-tu pas encore? C'est un exemple, peut-être qui touche certains d'entre nous. Obscurcissement de l'intelligence, cœur endurci, à ne pas comprendre la parole de Dieu. On va regarder un deuxième et dernier passage en Matthieu chapitre 14. C'est un cas d'incrédulité, mais qui est différent. Matthieu chapitre 14, c'est le passage bien connu où Pierre marche sur les eaux. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi !» « N'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Le manque de confiance manifesté par Pierre, il est d'une nature différente que le manque de compréhension des disciples à propos du pain. Pierre, dans ce cas-ci, est convaincu que Jésus est capable de le faire marcher sur les eaux, à tel point qu'il lui demande, en fait, de lui ordonner de marcher vers lui. Mais voilà, Pierre se trouve tout à coup au milieu de l'eau, c'est la nuit, il y a du vent, le lac est agité, il y a des grosses vagues, et même s'il voit Jésus à quelques mètres de lui, il commence à douter. Les circonstances hostiles prennent le dessus, sa confiance en Jésus flanche et il se met à couler. Cet épisode, c'est la manifestation du doute, de l'incrédulité devant des circonstances hostiles. Et en un sens, son reniement un peu plus tard, le reniement de Pierre, est exactement de la même nature. Face à des circonstances menaçantes, il perd pied, il perd sa confiance en Jésus et il va jusqu'à le renier. Notre foi est mise à l'épreuve par les circonstances de la vie. Une série de soucis, des soucis professionnels, des soucis familiaux, des soucis de santé, voire une persécution pour Christ qui a poussé plus d'un homme qu'on croyait solide au reniement. Le Seigneur nous a mis en garde et nous devons méditer ses paroles. Il a dit ceci en Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous devons donc nous préparer frères et sœurs aux tribulations de toutes sortes, qu'elles soient, comme je l'ai dit, dans le domaine de la maladie, le domaine des soucis professionnels, les soucis familiaux, ou dans le domaine de la persécution pour le nom de Christ. Nous devons nous y préparer. Je vais conclure mon message en résumant ces causes d'incrédulité qu'on a étudiées aujourd'hui. Première cause, le manque de connaissance. Pour avoir la foi en Jésus-Christ, il faut reconnaître sa révélation. Une foi chrétienne solide se construit sur une solide connaissance de la parole et également une connaissance des grandes doctrines telles qu'elles sont enseignées par vos pasteurs au travers des catéchismes, par exemple. Là, vos pasteurs vous enseignent, et les anciens vous enseignent les grandes doctrines. Il ne s'agit pas seulement d'avoir lu la Bible en entier une fois dans sa vie, ce serait déjà très bien d'avoir lu la Bible en entier une fois dans sa vie, mais la Bible n'est pas un roman dont on peut dire « je l'ai lu ». La Bible, c'est quelque chose qu'on lit et qu'on relit, et qu'on relit encore jusqu'à la fin de sa vie de façon systématique, afin d'être enseigné. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas être ce style de chrétien, parce qu'ils ne le sont pas réellement. La deuxième chose, la deuxième cause de l'incrédulité du chrétien, c'est une remise en question de la vérité de la révélation. Et cela se produit quand Satan vient nous dire à l'oreille, Dieu a-t-il vraiment dit ? Sur tout un ensemble de sujets sur lesquels il veut nous tenter, sur lesquels nous avons des questions. Et le remède est le même que le premier. Lisez et relisez votre Bible. Et vous aurez la réponse au mensonge de Satan. Et nous avons une preuve très claire de cela. C'est Jésus qui l'a fait lui-même. Satan est venu le tenter. Et comment Jésus a-t-il répondu ? Il a répondu, chaque fois il a dit, il est écrit. Donc si vous voulez pouvoir répondre à Satan, il est écrit, ben, il faut d'abord que vous sachiez ce qui est écrit. Ensuite, on peut être soumis à un manque de compréhension qui reste réellement un obscurcissement de l'intelligence, un brouillard d'incompréhension et d'incrédulité, un endurcissement du cœur qui nous empêche, c'est le pire, qui nous empêche de nous approprier les promesses de Christ. On ne s'approprie pas les promesses de Christ parce que notre esprit est obscurci, notre cœur est endurci. Et c'est terrible. Elles sont là, ces promesses, mais on n'arrive pas à se les approprier. Et donc, il faut d'abord qu'on soit sur nos gardes. Quand cela se produit pour nous, qu'on se dise, je suis les apôtres qui ne comprenaient pas. Et le problème, il ne vient pas de Jésus, il vient de moi. Et le remède pour ça, je pense que c'est la prière, c'est se tenir devant le Seigneur et lui demander de nous libérer de cet obscurcissement, de cet endurcissement du cœur. Lui demander même de nous pardonner parce que c'est un péché, s'en repentir et s'en remettre à lui. On peut manquer de confiance dans le Seigneur et douter de sa souveraineté et de sa bonté, comme le peuple juif dans le désert. Le remède contre ça, c'est, si on se met à douter de la souveraineté de Dieu, est-ce que Dieu vraiment contrôle toute chose ? Ou douter de sa bonté, est-ce qu'il vraiment il a des bonnes intentions à mon égard ? Le remède clé pour moi, c'est de méditer sur toutes les preuves de la souveraineté et de la bonté de Christ que nous trouvons dans la parole. Et la plus importante, c'est la croix. À la croix, la mort de Jésus sur la croix, elle montre sa bonté pour nous. Et la résurrection de Christ après 3 jours, elle montre la souveraineté de Dieu même sur la mort. Donc si nous avons un manque de confiance dans le Seigneur, si nous doutons de sa souveraineté ou de sa bonté, regardons à la croix de Christ. Et enfin, nous devons nous préparer aux tribulations, quelle que soit leur nature, parce que le Seigneur nous a dit que nous aurons des tribulations, mais il a vaincu le monde. Je conclurai juste sur un verset, Éphésiens 6, 14. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen.